This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis.
À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot « famille » ? À ces gens qui vous ont donné naissance ? À ceux avec qui vous avez passé votre enfance, une chambre avec des lits superposés, des réunions émaillées de disputes, des fous rires, du sable dans les oreilles après la mer, des nuits de fièvre où l'on vous veillait malgré la fatigue ? Des vacances à faire semblant de s'entendre, des non-dits que l'on évite à grand renfort de conversations vaines, des colères étouffées pour ne pas crier des choses irrémédiables. Tous ceux auxquels il faut plaire, dont on craint le jugement, même quand parfois on n'estime plus rien d'eux, ou toute autre chose. Ces gens arrivés sur votre chemin en cours de route, ces amants devenus époux, ces amis devenus comme frères, sœurs, ou bien ces gens avec qui vous partagez autre chose, une transcendance, une famille qui ne voudrait plus dire qu'amour ou simplement entente.
Aujourd'hui dans Passage, une histoire de famille. Au micro de Lucie Carbajel. Je suis Maureen Wilson.
Je suis Charlotte Pudlowski.
Bienvenue dans Passage.
Dès que j'ai pu quitter la famille, je l'ai fait. Le climat familial à la maison me convenait pas, c'est clair. Et avant que ce soit avec ma bande d'amis, c'était avec Seb. Avant que ça soit... Enfin, j'ai toujours essayé de sortir de ce truc-là, de cette famille. C'est physiquement, tu vois, genre la famille à la maison. J'ai toujours essayé de sortir de la maison, en fait. Moi, à la maison, je trouvais pas ma place. Je trouvais pas ma place. Au collège et avant le collège, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Sébastien et je l'ai rencontré au centre sportif à l'époque. Et ouais, c'est mon pote grave parce qu'on vit en face l'un de l'autre en fait dans la rue. Du coup, on se voit tous les jours. On va souvent faire du basket ensemble. De mes peut-être 8 ans, où on allait au centre aéré à mes 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est mon meilleur ami. À l'âge de 15 ans, il tombe malade rapidement. Et en gros, pendant 2 semaines, je le vois plus. 1 semaine, 2 semaines, je le vois plus. On se parle juste au téléphone. Le mercredi, la directrice de l'école, elle vient me voir, elle sait que je suis ami avec lui, et elle me dit, il est à l'hôpital, vous avez des nouvelles, en gros. À midi, je rentre chez moi, je mange, je décide d'y aller, en fait. J'appelle, ou non, j'envoie des messages sur MSN, je m'en souviens, à tout le monde, et on se chauffe, on prend le métro, on décide de descendre à Jeanne de Flandre, qui est l'hôpital principal de Lille. En fait, on balade un peu de service en service, et à un moment donné, je sais pas, je vois un truc sur un écriteau, j'ouvre une porte, j'arrive dans une salle où, tu sais, il faut se désinfecter un peu le corps. Au bout de la pièce, il y a une autre porte qui donne sur le service en question, tu vois. Donc j'ouvre cette porte-là et je vois au fond du couloir le père de Sébastien. Et il hallucine clairement et il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Comment vous avez trouvé ?» Parce qu'on n'a eu aucune indication, tu vois. Et il revient avec cette même dame, donc cette même infirmière, et elle nous dit « Bon, écoutez, voilà, Sébastien, il est pas là, il est plus là, quoi, il est plus de ce monde. » Et en fait, quand il voit l'absence de réaction, le père, Philippe, il se dit « Non, non, mais il est plus là, il est décédé. » Et son père, il nous dit que si on veut, on peut aller se recueillir. Et voilà, on entre dans la pièce et voilà, on le voit. Et on se dit quand même un truc. On fait un espèce de pacte tous ensemble où on met notre main au milieu. Et Seb, avec Seb à côté, on se dit qu'on se perdra jamais de vue. Bon, en fait, on s'est perdu de vue. Mais pour moi, il y a un truc avec l'amitié qui est hyper retentissant à ce moment-là. Tu vois, je me dis, waouh, c'est hyper fort. Je m'en souviens très très bien de ce truc-là. Je me souviens qu'après, je finis par faire des trucs bizarres dans les semaines à venir ou même dans les mois à venir. Très bizarres, très mystiques. Nous, on avait un signal pour sortir à l'époque. On faisait rebondir le ballon de basket devant chez lui ou devant chez moi. Et c'était le signal. On savait que la personne était là pour aller jouer, tu vois. Et je passais des après-midi à jouer devant chez lui. Et je me souviens attendre de voir s'il descend. Ça me revient dans la gueule des années plus tard. 2-3 ans plus tard, peut-être vers 18 ans où je me rends compte que je suis un malade, quoi. Je suis devenu un mec hyper violent, hyper agressif et hyper... mais pas bien, en fait. Du coup, après cette période-là, j'ai été très renfermé sur moi-même, encore plus dur que ce que j'avais été. Mon désir, il était encore plus de m'isoler, tu vois, de la famille, de mes relations avec la famille. Je sais pas pourquoi, c'est un mécanisme qui s'est mis en place. Je cherche pas de réponse auprès de la famille. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je fais la connaissance de Théo et de Sovan. Parce qu'en fait, Théo et Sovan, c'est des mecs que j'avais rencontrés grâce à Sébastien. Et du coup, on se met à se côtoyer tous ensemble, en fait, du coup. Et c'est grâce... En vrai, j'ai fait mon deuil grâce à eux, tu vois. On a beaucoup parlé parce que je passais beaucoup moins de temps à la maison après. Je sais que je disparais un peu.
Comment t'expliques ce besoin de te détacher de notre famille à ce moment-là ?
Il y a une vraie scission qui se fait parce que je me rends compte de l'importance des amis et le poids qu'ont les amis dans la vie et dans ma vie. Et du coup, je me mets à vouloir créer une espèce de groupe où, hyper soudé, où je leur dis tout, où je leur dis que je les kiffe vraiment, tu vois, où je leur dis qu'ils sont importants pour moi et tout, alors que c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant et que j'avais jamais eu l'habitude de faire avec quiconque. Quelques semaines après sa mort, je crois quelques jours même après sa mort, du coup il y a une cellule psychologique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros il y a une espèce de psychologue qui vient au collège, à l'infirmerie, et donc on va voir cette personne et on discute de ça, de comment est-ce qu'on se sent par rapport au décès de Seb. Et moi je me souviens avoir dit que je voulais rester confiné avec mes amis et je voulais ne pas m'ouvrir aux autres. Je me souviens qu'ils ont une réaction un peu choquée, enfin un peu... En mode, qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Au contraire, faut s'ouvrir. Et c'est Sovan et Théo qui m'avaient dit, mais non, au contraire, faut s'ouvrir aux gens. Faut en parler, faut discuter. Et en fait, quand on sort, on est dans la cour, et on est à trois, et on parle de ça avec Théo et Sovan, et on se dit que c'est fou, que c'est horrible, que c'est triste. Je me souviens que Théo pleure. Et ouais, je me sens proche d'eux, en fait. À ce moment-là, je me dis, waouh, on est liés. J'ai perdu un ami. Mais j'en ai gagné d'autres. La mort de Seb, en fait, elle me renvoie au fait que déjà, j'ai pas énormément d'amis, puisque lui, c'était mon vrai meilleur ami. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'accorde énormément d'importance au groupe. Ça me rassure pas mal d'avoir plusieurs amis, parce que je me dis que ça minimise les chances que je sois seul, en fait. Voilà, je suis entouré, tu vois, je suis entouré de personnes, et il n'y a pas de raison que je me retrouve seul comme j'ai pu me retrouver seul, en gros. Moi, en fait, en ce moment-là, je pense que je souffre. Je pense que je vis un malaise et un mal-être important. Parce que pour plein de choses, en fait, à ce moment-là, je pense pas être au top. Et en face, j'ai de la répression. En tout cas, de la peur de papa. J'ai pas d'écoute. J'ai plutôt du jugement. Et en face, j'ai quelqu'un qui me dit tu vas filer droit et t'as pas le choix. Après, maman, c'était différent. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le côté où elle cherchait à comprendre pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'exprimais rien, pourquoi j'étais dur et tout ça. Mais voilà, du côté de papa, c'était plus dur quand même. J'ai plus l'impression que papa, c'est une personne qui met des freins à ma liberté. C'est une personne d'autorité. Donc du coup, ouais, je suis pas hyper à l'aise avec lui, quoi. En fait, à chaque fois qu'on a des relations, en fait, finalement, c'est ou bien des débats qui finissent par être des débats houleux et qui sont jamais très sympas, et ou bien des relations d'autorité où, en fait, lui, c'est un adulte qui nous dit quoi faire. À l'époque, on étudie un livre, en fait, au collège. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ça se trouve, c'est Cro-Blanc. Maintenant, ça me revient. Et en fait, dans ce livre, en tout cas, le protagoniste, il est vagabond, tu vois. C'est quelqu'un qui parcourt ville après ville et qui vit sa vie un peu comme il l'entend. Ça me marque et j'en parle vraiment de manière anodine, tu vois, pendant le dîner. Et donc, du coup, ce soir-là, je sais plus pourquoi, je commence par parler de ce livre. Je dis, c'est trop bien d'être vagabond, j'aimerais bien être un vagabond, tu vois. Et ce truc-là, ce truc de dire, d'avoir dit, je suis un vagabond, je crois que je l'ai entendu ensuite, pendant toute ma vie. Papa, il a ressorti ce truc-là en se moquant. Et à ce moment-là, moi, je dis aussi que ça m'intéresse, la religion juive, plein de choses sur la liturgie que je trouve passionnant. Et en fait, quand j'explique ça, il finit par résumer que je veux juste être juif. Et que après avoir voulu être vagabond, je veux être un juif. De l'âge où j'ai commencé à avoir conscience de qui j'étais, etc., donc peut-être 13 ans, tu vois, jusqu'à mes 20 ans, en vrai, il y a une cassure. Enfin, on n'a pas communiqué. J'ai quand même le souvenir que collège et lycée, j'étais pas hyper cool, je pense. Je voulais pas que tu rentres dans mon monde. J'étais pas forcément intéressé par le tien. Enfin voilà. Ouais, je pense pas que j'ai dû être un bon frère. À ce moment-là, j'étais pas le meilleur acolyte, quoi. Je pense. Je te voyais pas. Non, mais en vrai, t'étais ma sœur, mais. C'est pas que je m'en fous, c'est que pour moi, t'es plus une gamine. Alors que, tu vois, 2 ans et demi, c'est rien. Mais à l'époque, quand tu passes de 13 ans à 15 ans, c'est énorme. Et pour moi, tu sers à rien. On est trop différents à ce moment-là. Je me souviens de certaines scènes où genre je t'insulte parce que t'es descendu, parce que je fais une soirée avec mes potes ou je suis avec mes potes et que du coup toi tu descends et que tu t'es là, et du coup ça me parle les moments où je te jette des regards et tout, ou alors que je t'insulte. J'ai pas cherché à te rejeter plus que ça, mais à mon avis mon comportement a tout fait pour. Peut-être que je te faisais payer mon malaise, peut-être. Mon malaise et mon mal-être, ouais.
C'est quelques mois après la mort de Seb. On fait un voyage en Angleterre avec le collège. Est-ce que tu te souviens de la dispute qu'on a là-bas ?
Je me souviens qu'on visite une usine de chocolat, Canterbury, enfin les chocolats Canterbury, parce qu'on est là-bas. Et je sais pas pourquoi, je te vois et je sais pas ce qui se passe. On se dispute et je te mets un coup, une tarte dans tout le monde, dans la queue, mais j'ai pas trop de souvenirs après, je t'avoue. Je sais juste que c'est grave, quoi. Je sais juste que c'est grave parce que même Théo me dit, mais... Enfin, t'as craqué, là. T'as craqué, pourquoi t'as fait ça, machin.
Et tu te souviens de l'après ?
Non.
Après, je t'ai plus parlé pendant 3 mois.
Ah ouais ? Ah non, je m'en souviens plus du tout.
Et tu te souviens pas comment on se réconcilie ?
Non. Ah putain, je m'en souviens. Attends, je suis tout en haut dans la chambre, je regarde un truc, je crois. Ah, c'est ça, je m'en souviens. Attends, parce que du coup, ça me rappelle des trucs. Attends. Ça revient. C'était dur. C'était dur. Ça m'a traumaté. Tout m'a traumaté. Et ce moment, je m'en souviens maintenant. Maintenant que tu m'en parles, je m'en souviens. On est tout en haut. Je suis tout en haut. Et je crois que tu me demandes un truc. Enfin, je sais plus comment ça se passe, mais tu me demandes un truc. Et je t'envoie bouler. Hard. Et tu descends, je crois, et tu me dis, mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça, en fait. Et je crois que ce truc-là, c'est la première fois où tu me dis ça. Je ressens vraiment que tu comprends pas, quoi. Que t'es triste de pas comprendre. Et que tu te dis, mais c'est un ouf. C'est un ouf. Il est vraiment méchant, genre. Et ça me fait du mal. Et je crois que je descends, t'es dans ta chambre, et je me dis, je suis désolé et que je t'aime, en fait. Et je te prends dans mes bras. Et ça m'a marqué, pour le coup, parce que je crois qu'après, ça va mieux. Mais, ouais, c'est dur. À ce moment-là, c'est très dur. Je me souviens que j'ai dit que ça me manque. Et voilà. Voilà.
J'ai compris le chagrin immense et le désespoir dans lequel t'étais. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que tu lâchais un énorme truc. Je trouvais ça à la fois hyper triste, mais hyper beau, parce que tu m'as dit des trucs que tu m'avais jamais dit. Enfin, on s'est dit des trucs, du coup, qu'on s'était jamais dit. Et je suis trop contente que tu t'en souviennes, en vrai.
Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très, très bien. Je sais même où on est dans la chambre, et je sais que je suis à genoux, et que je me souviens extrêmement bien. Alors que c'était il y a plus de 10 ans.
C'est pas pour autant que notre relation s'est améliorée.
Non, c'est vrai que non. Mais par contre, il y avait beaucoup moins de violence, non ? On était cordiaux, enfin, tu vois, on avait une relation de gens qui se toléraient. On rigolait de temps en temps, mais voilà. Il y a toujours eu quand même chez moi, même si on n'était pas très complices, l'aspect protecteur, tu vois. Tu restes ma petite sœur et toute la vie, enfin, tu vois, c'est comme ça. On est en hiver, parce qu'il y a du verglas. Et moi j'étais au collège, j'étais devant le lycée à l'époque. Je suis avec mes potes et tout, on discute, machin, c'est le matin, tu vois. Il fait très froid, à Lille en plus. Et donc toi tu arrives au lycée aussi, je crois. Et tu du coup tu tombes à cause du verglas. Et il y a un mec qui rigole, je sais plus qui c'est. Et je sais plus ce que je dis, mais je dis un truc genre... rigole pas, quoi. Je sais plus ce que je dis. Je me souviens de la scène où je mets un coup de pression comme ça à un mec. Moi, de mon côté, ça me paraît normal. On se parle pas, mais je te défends. C'est vrai que c'est bizarre.
Aujourd'hui, comment tu qualifierais notre relation à nous deux ?
Moi, je trouve qu'on partage beaucoup plus de trucs, on discute beaucoup plus. Après, il y a aussi le fait que dans notre famille, il y a eu des aléas avec nos parents, tu vois, qui se soient séparés, et que du coup, toi et moi, on en ait discuté, et qu'on se soit vus pour ça aussi quelques fois. et qu'on en ait parlé, bah ça du coup c'est finalement ça nous a rapprochés, tu vois. Et en fait ça nous a permis de connecter en fait, de reconnecter, je pense. Moi j'ai confiance en toi. Du coup je me permets de dire, enfin je me permets de parler de choses que j'aurais pas, dont j'aurais pas forcément parlé avant. Je suis plus en phase avec moi-même en étant comme ça avec toi, quoi. À ce moment-là, j'ai 19 ans, peut-être 20 ans. Papa, il a une autorité sur moi qui fonctionne plus. On est le soir et une dispute qui éclate, mais légère au début, et il finit par me dire un truc qui me plaît pas du tout. Il me dit t'as de la chance, en gros, je pourrais te mettre 2-3 claques et on n'en parlerait plus. Et en fait, moi, à ce moment-là, ça me fait vriller. Je lui dis tu vas rien faire. Et je pense qu'il hallucine. Et il me dit non, mais comment ça, enfin quoi. Et moi à ce moment-là il me fait plus peur du tout, quoi. C'est-à-dire que je suis prêt, même si je me fais latter, je suis prêt à lui montrer que je me ferai latter, mais il faudra marcher dessus pour qu'il y arrive. Et donc je lui dis bah non, viens, moi je t'attends, quoi. J'ai viens, ça me fait pas peur. Il vient et ça on en vient presque aux mains. Et vous assistez à la scène, et à ce moment-là maman nous sépare. Je crois que toi t'es là, je sais plus trop ce que tu fais, mais Tu nous sommes de nous calmer, quoi, je crois. Quelques jours plus tard, il me dit je vais te déshériter, enfin tu feras plus partie de... enfin, t'es plus mon fils, quoi, en gros. C'est un peu ce que ça veut dire. Et je sais plus comment ça se termine, ou au final je finis par m'excuser. Et il me dit je t'excuse, mais je te pardonne pas. Je te pardonnerai pas. On est le 14 décembre 2019, je crois. C'est un vendredi. Et donc voilà, je me rends à la mosquée de Roni. Il y a le prêche du vendredi, en fait, le fameux prêche du vendredi qui s'appelle la Jumu'ah. Et à ce moment-là, en fait, l'imam annonce qu'il y a une conversion aujourd'hui qui doit être faite. Et donc il m'appelle. Il me demande comment je m'appelle. Je lui dis je m'appelle Ulysse. Je suis français, j'ai 27 ans. Et il me dit ok, est-ce que tu sais. Tu sais réciter la Shahada. La Shahada, c'est ce qu'on appelle la profession de foi. Et je lui dis oui, bien sûr. Et il la récite, il a dit une fois, et il me demande de la répéter devant tout le monde. Et donc je répète cette profession de foi. Et voilà, je suis converti, en fait. Et une fois que je récite cette profession de foi, il y a tout le monde qui vient me voir, en fait. Tout le monde qui me salue, qui m'accueille. C'est la première fois que je suis... intégré dans une telle communauté, je me sens vraiment porté, tu vois, je me sens porté, et à ce moment-là, je ressens vraiment une plénitude, tu vois, je me dis, c'était fort.
Est-ce que t'as l'impression d'être rentré dans une nouvelle famille ?
Je vois ça comme une famille d'accueil, je vois ça comme un truc, ouais, une famille d'accueil, c'est vraiment le mot. Enfin, je crois qu'à ce moment-là, j'ai besoin... De découvrir autre part, autre chose. Pas forcément par le biais de ma famille de sang. Ça tombe un 14 décembre, et en fait, toi, t'es né le 14 décembre, c'est ton anniversaire. Et du coup, moi, je quitte cette mosquée, il est vers 14h, et je sors du RER, et je décide de t'appeler. À ce moment-là, je suis rempli de bienveillance de ce qu'on m'a apporté, en fait. Et du coup, moi, je suis chargé d'émotions, et à ce moment-là, je me dis, bah... Il faut que je retranscrive cette émotion aussi avec ma vraie famille, donc du coup toi en l'occurrence. Et je crois même que j'essaye d'appeler maman après, mais je sais plus, je crois qu'elle répond pas, bref, elle bosse. Et donc du coup je t'appelle et je te dis joyeux anniversaire, etc. Et je te dis que je suis fier de toi et que j'espère que tu seras heureuse, j'espère que t'es heureuse et j'espère que tu vas réussir, ou je sais plus ce que je te dis exactement, mais voilà, je décharge tout cet amour, toute cette énergie, je la retranscris Et je te le dis, quoi.
Enfin, moi, cet appel, il m'a marqué. Je m'attendais à ce que tu me souhaites mon anniv, comme d'hab, quoi. Et là, tu m'as dit, je suis fière de toi. Et j'étais là, wow. Et c'était la première fois que tu me disais ça.
Ouais, c'est parce que nous, déjà, je pense qu'on n'a jamais été habitués à recevoir ces mots. Et en fait, à ce moment-là, je sais que c'est quand même ce qu'il faut dire. Tu sais, moi, je suis fier de toi, tu vois, donc je le pense. Mais on se le dit pas. Et je me dis, à ce moment-là, c'est tellement bête.
Pourquoi tu veux pas me le dire à ce moment-là que tu t'es converti?
J'ai quand même envie de te le dire. En même temps, j'ai pas trop envie de tout mélanger, tu vois. Genre, émotionnellement, c'est trop fort pour en parler aux autres qui pourraient pas forcément comprendre mon émotion. Et il y a trop de choses qui s'en mêlent, il y a trop de sentiments qui se mélangent. C'est un truc que je veux vraiment expérimenter seul et sans forcément en parler à mes parents, à ma famille en tout cas. À mes potes, ça me dérange pas parce qu'ils savent qui je suis au plus profond de mon... Enfin, je me suis toujours présenté à eux en étant moi-même, tu vois. Mais les parents, c'est toujours... Il y a toujours une certaine pudeur et une certaine distance qui est normale pour moi. J'ai pas l'impression que ça soit une façon pour moi de me démarquer de la famille. Par contre, j'ai l'impression de trouver un truc qu'il n'y avait pas dans notre famille. C'est quelques mois après que je me sois converti. Parfois, je poste des trucs, tu sais, sur Instagram, en story, je poste des trucs un peu spirituel, un peu en rapport avec la religion. Et du coup, il y a sûrement des gens qui se posent des questions, et dont une de tes potes qui s'appelle Jana, et qu'elle croit que je suis devenu musulman. Et toi, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Enfin, il me l'aurait dit, ou j'y crois pas. Et en fait, un jour, on boit un verre ensemble tous les deux, et ton amie Jana nous rejoint, on finit le verre, et je te raccompagne vers le métro, et t'es avec elle, et tu me poses la question, en fait, de savoir est-ce que je suis musulman. Et en fait, là, je te réponds que oui. Et sur le coup, t'en reviens pas parce que elle avait raison et tu t'y attendais pas du tout. Et c'est comme ça que t'apprends finalement que je me suis converti, que je suis musulman. Donc à ce moment-là, il me semble que t'as juste dit « Ah bon, ok, je savais pas, tu me l'as pas dit. » Et en fait, je m'attends à ce que tu dises ça. Et je m'attends à rien d'autre finalement. Je m'attends juste à ce que tu sois stupéfaite. Je pense pas du tout que ça peut te faire peur ni t'inquiéter. Je pense juste que tu dois être deg que je te l'ai pas dit. Alors j'ai pensé que c'était mieux que ce soit toi qui l'annonce aux parents parce que j'avais pas envie en fait de devoir me justifier, et j'avais pas envie de rentrer dans un débat particulier, j'avais juste envie qu'ils le sachent, ou qu'ils le sachent pas d'ailleurs, que ça soit un acquis et qu'on passe à autre chose en fait. La première à l'apprendre, c'est maman, et tu lui fais écouter la première version du podcast que t'as fait sur moi, qui parle vraiment principalement de la conversion. Et toi et moi, on se parle sur WhatsApp à ce moment-là. Je fais rien de spécial, juste je suis plus focus sur les messages parce que ça m'intéresse, tu vois. Je me dis qu'est-ce qu'elle va bien dire, tu vois. Il y a quand même un truc où ma mère va savoir que je me suis converti à l'islam. Et tu me dis un peu ces expressions, tu vois, tu m'expliques là elle est en train de mettre les écouteurs, là elle fait des grands yeux, je sais plus exactement ce que tu me dis, mais et à ce moment-là, moi je suis stressé, je suis angoissé, je sais pas, parce que même si elle est très tolérante et même si elle est très ouverte, c'est toujours mieux chez les autres, en vrai. Je me dis, j'espère qu'elle va bien le prendre, quoi. J'espère qu'elle va bien l'assimiler d'info, tu vois. J'espère qu'elle va pas se poser les mauvaises questions et flipper. Elle l'apprend, elle écoute. Et moi, j'ai pas sa réaction en live, mais j'ai sa réaction un peu à froid. Je sais juste que tu me dis qu'elle le prend bien, moi ça me soulage. Elle va sûrement vouloir m'appeler, j'en suis sûr et machin. Et je te dis quand même, dis-lui de pas m'appeler. Je crois que je te parle de ça quand même. Je te dis, vas-y, flemme de l'appeler. Je préfère qu'on en parle plus tard, machin, machin. Elle m'envoie un message et quand je reçois le message, en fait, elle me dit un truc. Ben, dis donc, remarque, moi aussi, je crois en un au-delà, en des forces qui nous protègent. En fait, tu me ressembles, mais autrement. Je suis contente pour toi, si cela te rend plus heureux. Dieu est grand, mon fils, et mon cœur aussi. Et en fait, quand elle me dit ça, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent parce que je me dis, elle a compris et elle accepte qui je suis au fond de moi parce que c'est quand même hyper intense, hyper profond comme chose, comme voilà. Peu de temps plus tard, je retourne à Lille pour manger avec elle un midi. On se donne rendez-vous dans un restaurant. On nous donne la carte. Et sur la carte, c'est des burgers. Elle me dit, j'espère qu'il y aura ce qu'il faut pour toi. Et tu sais, moi, je la regarde, mais je lui dis, bah oui, oui, il y aura ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et sur le burger que je veux, il y a du porc. Et du coup, elle me dit, mais du coup, comment on fait? Il y a pas, enfin, il y a du porc, il y a du porc partout, en fait. Comment on fait Et c'est, enfin, je la trouve hyper amusante et en même temps un peu pas ridicule. Hein, je vais pas être méchant, mais j'ai toujours mangé sans porc bien avant que je me convertisse. Et moi, c'est juste que j'ai jamais mangé de viande, enfin trop mangé de viande, et encore moins le porc parce que j'ai jamais aimé ça. Et du coup, ça fait depuis des années que j'ai arrêté de manger du porc. Et ça a jamais posé de problème pour personne. J'ai toujours réussi à me démerder. Et là, le fait qu'elle soit attentive et qu'elle soit vraiment attentive à ce qui est tout ce qu'il faut pour que je mange sans qu'il y ait de porc, ça m'a fait sourire et ça m'a attendri parce que je me suis dit, elle est mignonne en fait. Elle est grave mignonne parce qu'elle fait attention, elle me considère finalement. Moi, je trouve que j'ai jamais été aussi proche de ma famille, en fait. Avec cette conversion et avec mon éloignement de ma famille originelle, j'ai compris que ma famille de sang, donc l'originelle, elle était très importante et qu'il fallait chérir ce truc-là, tu vois. Et que même si, par exemple, toutes les divergences que j'ai avec papa, eh ben, il fallait quand même chérir ça. Que même si j'avais perdu du temps avec toi, en tant que frère, il fallait quand même retourner dessus, tu vois. Et c'est en vrai, ça vient de là, tout ça. En fait, ma conversion, elle m'a permis une ouverture. Une ouverture sur moi-même, tu vois, sur mon cœur. Et une ouverture, du coup, vers les miens. J'ai trouvé ma place.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Lucie Carbajal, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Bénédicte Schmitt, qui a également composé la musique et fait le mix. Marion Girard est responsable de production et Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.